Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette revue de presse du 21 juin 2022. Voici les titres d'actualité. Nous allons d'abord parler éducation avec les enfants, en parlant en particulier du manque, c'est-à-dire apprendre aux enfants à manquer. Je vous donnerai les conseils de la psychologue et psychanalyste Diane Drory qu'elle a donné à l'Invisible numéro 23. Nous allons ensuite aller du côté des pères, donc à savoir ces pères qui cherchent un petit peu des repères, donc entre le père autoritaire, le papa poule, le père absent même physiquement, beaucoup de jeunes pères se cherchent encore et n'ont pas encore trouvé leur place. Je vous lirai l'article de Jacques Arène sur le site de l'invisible.com. En portrait, nous allons parler de Alban Gervais. Comme vous le savez, sa mort a fait un étonnant silence médiatique. Et ben nous allons en parler à travers un article paru sur le site revuemission.fr. Donc nous allons décortiquer un petit peu plusieurs points, donc à savoir honorer la mémoire d'un innocent, que signifie ce meurtre, veiller à ce que justice lui soit rendue et quelle leçon spirituelle de cet événement. Culture chrétienne, je vous présenterai deux livres. Le premier, du père Michel Martin Prével, intervenant chez nous et que vous retrouverez à la rentrée, qui vient de publier aux éditions des Béatitudes « Chérie, on est en crise ». Et enfin, je vous lirai l'interview de Peter Sivald à l'occasion de la première partie de sa biographie consacrée à Benoît XVI. Nous commençons avec l'éducation et le manque que les enfants doivent faire dans leur vie. Aujourd'hui, on est tous accaparés par la phrase « surtout qu'il ne manque de rien, ce gosse est tout pour nous ». Mais voilà, à trop vouloir son bien et son confort, on l'étouffe. Résultat des courses, il est gavé, surprotégé, choyé. Il ne sait plus ce que c'est que le manque. Voici les conseils de Diane Drory, donc qu'elle a donné à l'Invisible numéro 23. L'amour, on n'en a jamais trop. Seulement, aimer n'est pas tout offrir. Et le plus beau cadeau qu'on puisse faire à un enfant, c'est paradoxalement de ne pas lui donner immédiatement ce qu'il veut. Car l'enfant dont on comble les moindres caprices reste insatisfait. On a tendance à l'oublier. C'est d'amour vrai, à savoir de relations, transmissions et de lois dont un enfant a besoin. Si frustrer un enfant est devenu si difficile, c'est que l'idéologie éducative ambiante favorise la vision de l'enfant comme un être plein. L'adulte devrait dès lors veiller à ne pas entamer cette complétude en introduisant la faille du manque. Regardé comme un trésor, l'enfant est devenu tellement précieux qu'on en a fait un veau d'or. Assimilé à un objet de dévotion, il est tout pour ses parents, qui ont parfois eu beaucoup de peine à l'avoir. Le petit se retrouve illusionné d'une incontestable toute-puissance. La société elle-même adore cet enfant porteur d'avenir. Dans cette pédophilie, se permet de dire Diane Drory, tous les regards sont braqués sur lui et il est couvert de cadeaux, surprotégé, gratifié d'un amour parental sans bornes, prêt à tout accepter. Mais voilà, à 2 ans... elle ne peut s'endormir sans la présence de sa mère au moins 2 heures à son chevet. À 3 ans et demi, il refuse de dormir au moment de la sieste et crache même sur la dame qui le surveille. À 10 ans, il n'arrête pas de répondre, fonctionne non-stop à la carotte, aimerait déjà pouvoir vivre sa vie comme il l'entend. Sachons-le, l'excès affectif est aussi nocif que le manque. Cette démesure induit chez l'enfant la peur de la perte et l'empêchement du désir. La surcharge de sollicitude muselle sa vitalité. L'apprentissage de l'effort s'en trouve compromis. Si être comblé tout de suite est indispensable pour le nourrisson, grandir, c'est découvrir qu'un temps d'attente peut différer une réponse. Alors lorsque l'on s'indigne de voir un enfant dérober quelque chose, qu'on s'offusque de voir un préado voler un vélo simplement parce qu'il en a besoin là, maintenant, on devrait se demander si on n'a pas juste oublié de les introduire à l'attente et à l'acceptation du manque. Le manque, nul n'y échappe. L'enfant en fera souvent l'expérience dans la vie et il est essentiel qu'il apprenne à l'assumer. En lui laissant croire que tout ce qu'il désire est à sa portée, l'éducation rate son but. La frustration n'est pas une calamité. Manque, erreur et frustration sont vivifiants. À l'inverse, l'enfant envahi, comblé, aux prises avec un surplus d'offres risque de s'anéantir. Tel Thomas, 7 ans, qui dit vouloir se suicider. À 7 ans. Un entretien approfondi révèle qu'il ne jouit d'aucune autonomie tant ses parents craignent qu'il en fasse mauvais usage. Pour ce petit bonhomme, habité d'une saine énergie vitale, à quoi bon vivre? Si c'est pour être habillé tous les jours du désir de papa et maman, empêché d'exprimer sa colère sous peine de voir sa mère pleurer ou ne même pas pouvoir oublier son sac de piscine puisque ses parents y pensent pour lui. Il faut savoir qu'en matière de construction psychique, la place du manque est essentielle. Le manque, théorisé par la psychanalyse, en différentes étapes appelées castration, permet de demander, de parler, d'imaginer. À travers le manque, l'enfant élabore avant tout la possibilité de penser, d'être conscient, de ne pas être manipulé par ses pulsions, mais d'en faire un outil de réalisation personnelle. Quand on n'a pas tout, on développe un potentiel personnel. Obligé de trouver des solutions, l'enfant emploie son imaginaire. Sa logique fonctionne. Il cherche comment réaliser son désir. Il pense, il réfléchit, il invente, il teste et se relie aux autres pour trouver de l'aide. Contrairement à ce qu'on imagine, l'enfant qui ne traverse pas le manque ou le traverse trop peu devient extrêmement angoissé. Il ne s'humanise pas. Car le petit homme ne n'est pas civilisé, il le devient à travers de quotidiennes confrontations à la perte. Il est du devoir de l'éducateur de l'aider à l'action. Là, tout de suite, comme je l'entends. L'enfant auquel on n'apprend pas à renoncer s'imagine qu'il a tous les droits. « Laissez-moi vivre !» hurle Laurence. « Laurence veut un aquarium ?» Elle le reçoit. « Elle veut un iPod pour étudier son anglais ?» C'est OK. Elle espère trouver la paix de l'âme dans l'avoir. Par contre, « Je ne veux pas de votre école pourrie. » À 14 ans, elle s'insurge face à toute exigence. Est-elle heureuse? Assurément non. L'ado laisse régulièrement des messages de détresse à sa sœur et devient de plus en plus phobique et hypochondriaque. Aussi, l'adulte a-t-il le devoir de familiariser l'enfant avec la frustration. Le monde environnant donne l'illusion que tout est très rapidement possible. Pour certains jeunes sortis des illusions dorées d'une enfance trompeuse, le rêve s'écroule durement. Aucun humain ne peut tout être, gagner, réussir, tout contrôler, être parfait. Ce leurre ronge les perfectionnistes. Il est vital d'expérimenter la perte, l'erreur, l'ignorance, l'échec, l'impuissance ou la maladie. En les refusant, on s'enlise dans la souffrance. L'acceptation du manque est la source de notre force intérieure. En nous en souvenant de temps en temps, nous nous persuaderons que retarder l'acquisition d'un petit bonheur en double la satisfaction. Pour cela aussi, il faut apprendre à canaliser ses pulsions. Si on n'intègre pas que tous nos désirs ne peuvent être comblés, le chaos s'installe. Nous sommes en effet tous dotés d'une pulsion vitale qui nous fait vivants et désirants. Cette pulsion doit être canalisée. Si l'enfant n'a pas la chance de rencontrer un adulte capable de s'opposer à son désir et de supporter le choc des réactions normales de violence enfantine, donc à savoir pleurs, cris, tristesse, cette pulsion ne pourra ni évoluer, ni se refouler, ni se sublimer. Voici donc 6 clés pour gagner à manquer. Pour montrer combien le passage par le manque est vital. La première clé, c'est d'avoir le droit de rater et de se tromper. Penser à ce que le petit n'oublie pas son goûter, faire la dissertation de son lycéen pour lui éviter l'échec, c'est amputer l'enfant d'expériences nouvelles, de responsabilisation par rapport à sa vie. N'étant pas assez confronté à la vie et à ses expériences bonnes ou moins bonnes, ces enfants ont de la peine à intégrer que la perfection n'est pas de ce monde. Au lieu de le diaboliser, apprenons à nos enfants que l'échec est aussi important que la réussite. Donc première clé, avoir le droit de rater et de se tromper. Deuxième clé, rencontrer des interdits. Non, c'est non. Pas de bonbons avant le repas. Par exemple. Plutôt que d'essayer la négociation pour lui éviter d'être trop malheureux, restez dans un interdit indiscutable. En disant non, on met de l'attente et de la distance par rapport au désir. Cet intervalle permet de réfléchir. L'immédiateté ne permet pas de penser. Donc la deuxième clé, rencontrer des interdits. La troisième, prendre des risques. Pour passer de l'enfance à l'âge adulte, l'enfant doit être en mesure de prendre des risques et de se sentir responsabilisé sur les conséquences de ses choix. C'est bien connu, on apprend plus par ses propres expériences. Quatrième clé, de l'argent dans les poches. Tant pis s'il est perdu ou dépensé dès le premier jour. L'enfant intégrera qu'il faut attendre jusqu'au mois suivant pour à nouveau s'acheter quelque chose. L'argent de poche permet d'apprendre à construire un projet personnel, d'accepter que tout n'est pas possible tout de suite et d'assumer qu'on ne peut pas tout avoir. Cinquième clé, écran total. Attention. Protection à revoir. Pas de télé avant 3 ans, car l'enfant a besoin d'interagir avec son corps entier et ses 5 sens pour se construire. Pas d'écran d'ordinateur avant 6 ans. Car l'enfant doit découvrir l'interaction via le manuel. Pas de connexion Internet avant 9 ans, car plus jeune, il est difficile de leur expliquer les dangers d'Internet. Un enfant sur 4 de moins de 12 ans possède un téléphone portable. Avant 10 ans, le portable serait encore un cordon qui relie l'enfant à ses parents. Rassuré, il a l'impression qu'il peut les joindre à tout moment. Donner un portable à un très jeune préado, c'est l'inciter à se penser invulnérable, puisque capable de se relier à tout moment avec ses parents. Protection illusoire. Il est donc bien plus utile d'expliciter aux enfants comment réagir face à certains dangers plutôt que de leur donner un portable qui ferait illusoirement office de protection. Et enfin, sixième clé, trouver le temps long. Dans une société de l'immédiateté qui refuse la notion d'attente, l'enfant est souvent empêché de comprendre la matérialité du temps. Or, grandir, apprendre, essayer prend du temps. Il est urgent de réveiller sa faim de l'attente, de valoriser chez lui l'effort, la suite dans les idées et la persévérance, plutôt que de le complimenter pour son intelligence. Vous ne savez plus quoi inventer pour l'occuper ? Offrez-lui un samedi, après-midi, vide d'activités programmées. Tu peux t'ennuyer. L'enfant demandera sans doute ce que cela signifie. Cela te donne le temps de penser à ce que tu aurais envie de faire. Donc la dernière clé, c'est trouver le temps long. C'était les conseils de la psychologue et psychanalyste Diane Drory qu'elle a donné à l'Invisible numéro 23. Nous allons maintenant nous tourner du côté de la paternité. Je pense qu'il y a une paternité épanouie à retrouver et elle est à la portée de tout le monde. Voici donc l'article de Jacques Arène en ligne actuellement sur le site de l'Invisible, donc à savoir l'invisible.com. La tradition juive rapporte cette parabole. Il en est comme d'un roi qui possédait des coupes délicates. Si j'y verse du brûlant, dit le roi, elles se fendront, et si j'y verse du glacé, elles se contracteront. Que fit le roi ? Il mêla le brûlant au glacé et versa le tout dans les coupes et elles résistèrent. C'est ce que dit le Saint béni soit-il. Si je crée le monde sous le signe de la mansuétude, les crimes seront sans nombre. Mais d'un autre côté, comment pourra-t-il subsister sous le signe de la rigueur ? Je vais donc le créer sous l'égide de la mansuétude et sous celle de la rigueur. Et puisse-t-il ainsi subsister ? L'éducation est le quotidien des parents, même s'ils n'y réfléchissent pas constamment. L'étymologie le montre bien. Éduquer, c'est conduire hors de l'enfance pour mener vers l'âge adulte. Faire d'un enfant un adulte, c'est l'aider à acquérir des compétences pour entrer dans le monde adulte. C'est aussi former le jugement de l'enfant, l'accompagner dans l'acquisition d'une vraie liberté et l'aider à mettre en place des relations affectives ou amicales durables et nourrissantes. Alors, les bons et les mauvais pères, qu'est-ce que ça veut dire ? Il existe des temps dans la paternité. Jacques Arène nous dit « Quand j'étais plus jeune, il y a 20 ans, donc quand mes filles étaient des nourrissons, je pensais qu'être père supposait de beaucoup s'appliquer et de faire les choses bien. Je croyais aussi, même si je ne le disais pas comme ça, qu'il existait des bons pères et des mauvais pères, et qu'il suffisait d'être du bon côté. En vieillissant, j'ai eu, comme tout père, des difficultés de positionnement, de compréhension avec mes enfants, notamment à l'adolescence. Cela m'a rendue plus modeste. Je conseille toujours les parents quand c'est nécessaire, mais je me rends compte qu'entre parents et enfants, il faut le temps du cheminement d'un côté comme de l'autre. Le temps est un élément essentiel. Quand on est parent, il ne faut pas attendre immédiatement le retour sur investissement. Il faut bien réfléchir quand on prend une décision importante. Le faire évidemment dans une vraie concertation de couple quand c'est possible. Mais il faut aussi savoir être patient. On peut avoir la bonne attitude, conforté par les conseils de nos proches, et laisser à l'enfant le temps de cheminer, mûrir, grandir. Les fruits de notre éducation s'épanouissent sur des années. Nous n'en voyons pas tout de suite le résultat. Alors, quelques petits conseils pratiques pour les hommes afin d'être un bon père. D'abord, c'est de soigner son couple. La première étape pour être un bon père, c'est d'être un bon mari. Voir leurs parents heureux et amoureux est ce qui aide le mieux les enfants à se construire. Il faut ensuite accepter ses limites. Être un bon père ne signifie pas être un père parfait. Messieurs, sortez de vos illusions d'une paternité idéale et acceptez que vous pouvez faire des erreurs. Et même parfois de demander pardon à vos enfants. Être cohérent. Les enfants ont un grand besoin de pouvoir faire confiance à leurs parents. Les pères doivent vivre en cohérence avec ce qu'ils disent et exigent. Tenir sa parole, être cohérent au sein de leur couple, ne pas exercer l'autorité par crise, faire preuve de stabilité en s'intéressant à tout ce qui concerne l'enfant, ne pas exiger d'un enfant ce qu'on ne peut faire soi-même. Montrer ses faiblesses, ne pas jouer les héros pour initier l'enfant et lui rappeler qu'elles font partie de la réalité. Exprimer aussi ses sentiments, ne pas avoir peur de ses émotions, de dire à l'enfant des paroles encourageantes, des mots tendres, sans pour autant vouloir faire comme la mère. Donner un cadre. Le conseil le plus important. Donner un cadre. S'affirmer et ne pas avoir peur de mettre des limites à l'enfant. C'est lui rendre un grand service et lui donner un cadre qui lui permettra de se construire solidement. Et enfin, passer du temps avec l'enfant. Prendre du temps avec l'enfant pour l'éveiller, le cultiver, jouer, explorer le monde avec lui. Ces moments de plaisir partagé construisent la complicité et permettent d'exercer l'autorité. Du côté des femmes, il y aura trois clés. Il faut que les femmes donnent à l'homme sa place de père. Sans la légitimation par la mère, l'homme ne peut prendre pleinement sa place de père et donner à l'enfant ce dont il a besoin pour se construire. La femme doit aussi donner à l'homme sa place d'époux et d'amant. Permettre à un homme de jouer son rôle d'époux et d'amant, c'est l'aider à trouver facilement sa place de père. Si le couple est déséquilibré et que la femme n'existe qu'en tant que mère, l'homme est frustré et le père étouffé. Séduisez votre conjoint, passez de bons moments à deux en amoureux. N'oubliez pas qu'avant d'être des parents, vous êtes un couple. Et enfin, ne pas s'arroger toute la compétence. Certaines femmes vivent leur statut de mère comme une consécration, compensant ainsi une faible estime d'elles-mêmes ou contrebalançant des difficultés dans la relation amoureuse. Elles font donc tout pour tenir sous leur pouvoir l'éducation des enfants et empêchent le père d'entrer en relation avec eux. Laissez vos maris participer et s'occuper des enfants. C'était l'article de Jacques Arène sur la paternité. Article que vous pourrez retrouver sur le site de L'Invisible. Nous allons maintenant nous tourner du côté de Alban Gervaise. Donc, comme vous le savez, nos grands médias n'en ont pas parlé, mais d'autres médias sont là pour le faire. Ce mardi 10 mai, le médecin militaire Alban Gervaise, 40 ans, est brutalement attaqué par derrière devant ses deux jeunes fils, 7 ans et 3 ans, à l'école catholique Sévigné de Marseille. Il se défend, mais l'assaillant de 23 ans, Mohamed, armé d'un couteau avec lequel il le poignarde au niveau de la gorge, finit par prendre le dessus et continue à le frapper à terre. Après 18 jours de lutte à l'hôpital, Alban Gervaise, qui n'a pas repris connaissance, donc, est mort de ses blessures le 27 mai. Pendant cette agonie, de nombreuses chaînes de prières se sont lancées discrètement et les protocoles de soins les plus poussés ont été mis en place pour qu'il puisse guérir. Ce temps d'incertitude, mais d'espoir, où s'étaient mis en branle les secours spirituels et matériels, se clôt tragiquement donc par la mort qui prend le dessus. Comment réagir face à une telle horreur et comment lire cet événement donc avec les yeux de Dieu? Voici donc l'article en ligne sur revuemission.fr. Tout d'abord, honorer la mémoire d'un innocent. La victime d'un tel acte de barbarie ne doit pas être oubliée. Il faut continuer à prier. Pour lui, pour sa famille, ses jeunes enfants qui grandiront sans leur père. Alban Gervaise doit rester dans notre mémoire commune. Et pour les catholiques, en tant que frère dans le baptême. Pour entretenir son souvenir, il faut recueillir les témoignages sur la personne qu'il était et sur le bien qu'il a fait. Ceci nous rempliront à coup sûr de tristesse face à la perte, mais aussi d'admiration envers un de ces hommes qui font le bien sans qu'on en parle dans la cité. Ceux qui l'ont côtoyé professionnellement témoignent de sa gentillesse et de sa discrétion. Au plus fort de la crise du Covid, Alban Gervaise était au front, allant travailler volontairement dans les hôpitaux où l'on manquait d'effectifs. Détail vertigineux, il avait aussi comme spécialité les blessés de guerre. Il aurait été de ceux qui auraient pu soigner la victime du crime qu'il a subi. L'armée demeure traditionnellement dans l'ombre et la famille doit se protéger dans un contexte où elle reste une cible. Mais le pire serait l'indifférence et l'oubli. Pour honorer le nom d'Alban, ce n'est donc ni à la grande muette ni à sa famille, mais à la société civile de s'engager. Souvenons-nous des grands rassemblements spontanés place de la République après la mort de Samuel Paty. Il faut prendre ensuite conscience de ce que signifie ce meurtre. Alban fut choisi par hasard, mais pas au hasard. Il a été choisi pour ce qu'il représentait. Cet élément est à rappeler pour lutter contre la fait-divérisation à laquelle d'autres victimes ont pu être réduites, qui invisibilise leur destin et vide leur mort de toute signification. Alban Gervaise n'est pas qu'un symbole. Il est un père de famille, fidèle à l'heure où il en manque. Médecin et militaire, c'est d'abord en sa qualité de père qu'il a été tué, en allant chercher ses enfants à l'école. En tuant un homme dans la force de l'âge, c'est donc cette paternité qu'on arrache. Une autre question se pose, celle du lieu. L'école catholique a-t-elle été une cible, comme l'avait été l'école juive du temps de Mohamed Merah? Un prêtre responsable d'une école salésienne, avec qui nous évoquions ce meurtre, me confiait qu'il se préparait déjà à cette sombre éventualité. Si la violence des attaques est sans commune mesure entre les persécutions des églises d'Orient et d'Afrique et les victimes du terrorisme en Occident, il s'agit toutefois d'un même phénomène. Les chrétiens sont ciblés en tant que chrétiens. Les autorités catholiques aussi devront examiner soigneusement si la victime l'a été pour son identité religieuse et s'il ne doit pas être qualifié de témoin, c'est-à-dire littéralement de martyr. Veillez à ce que justice lui soit rendue, c'est-à-dire... L'hommage et la prise de conscience, enfin, ne suffisent pas. Il faut se manifester pour s'assurer que la justice fasse pour lui le travail qu'elle a fait pour d'autres. Veillez notamment à ce que le mobile terroriste soit réellement examiné. Les Juifs de France ont dû se battre pour faire reconnaître le mobile antisémite des auteurs des meurtres de Sarah Halimi ou René Hadjadji. De même, il faut être vigilant quant à la rigueur des instances judiciaires, étatiques et médiatiques dans cette affaire, afin que la peur d'affronter le réel n'empêche pas de prendre acte des revendications djihadistes de l'assassin et de poursuivre la piste terroriste si elle se révèle fondée. Quelle leçon spirituelle de tout ça ? Je veux tuer au nom d'Allah », crie l'assaillant au témoin de la scène venu le désarmer et voulant achever son œuvre sur la victime. Jésus, dans l'évangile de Jean, chapitre 2, annonce « L'heure vient où quiconque vous tuera croira rendre un culte à Dieu. » Devant l'école catholique de ses enfants, ce verset s'actualise pour Alban. Alban était un enfant de Dieu et le Dieu d'Alban est un Dieu de vie. Il ne tue pas mais il sauve. Alban qui a soigné les autres toute sa vie et meurt jeune, innocent, d'une mort violente et injuste et en ce sens conformé au Christ en sa vie et en sa mort. Les mots de saint Paul prennent une résonance particulière. Ce grand apôtre qu'Alban a choisi pour prénommer son fils aîné lu à l'église lors des obsèques. « Frères, nous ne voulons pas vous laisser dans l'ignorance au sujet de ceux qui se sont endormis dans la mort. Il ne faut pas que vous soyez abattus comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité. De même, nous le croyons aussi, ceux qui se sont endormis. Dieu, par Jésus, les emmènera avec lui. » Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Réconfortez-vous donc les uns les autres avec ce que je viens de dire. C'était l'article consacré à la mort d'Alban Gervaise, article que vous pourrez retrouver sur le site de revuemission.fr. Nous passons maintenant à la culture chrétienne, où je vais vous parler très brièvement du livre du père Michel Martin Prével qui vient de paraître aux éditions des Béatitudes, « Chérie, on est en crise ». La crise du couple, certes vécue dans le conflit, est naturelle et porteuse de vie, bien que l'occasion aussi de souffrance. Or, on souffre moins de ce qu'est l'autre que de la mauvaise tournure prise par la relation. Ce livret propose des moyens de cheminer vers une nouvelle paix, construite avec patience, l'aide des autres et surtout l'aide de l'autre. Voici donc une petite prière pour changer son regard sur le conjoint. Voici l'autre devant moi, Seigneur. Aide-moi à le regarder au-delà de mes idées et de ses idées, de mon comportement et de son comportement. Car il est unique, Seigneur, et donc riche d'une richesse que je ne possède pas. Et c'est moi le pauvre qui me tient à sa porte pour apercevoir au fond de son cœur ton visage, ô Christ ressuscité qui m'invite et me sourit. Chérie, on est en crise, petit livret du père Michel Martin Prével paru aux éditions des Béatitudes. Et je me permettrai de vous lire juste un petit passage de l'interview de Peter Siewald qui vient de consacrer une première partie de biographie donc sur Benoît XVI, intitulée « Benoît XVI, une vie ». Quel aspect humain vous a le plus marqué chez Benoît XVI ? C'est un homme qui ne se met pas en avant, mais le plus impressionnant, c'est que s'appuyant sur la théologie, la sagesse de l'Église et de la tradition, il est en mesure de donner des réponses toujours pertinentes aux questions de notre temps. L'histoire devra-t-elle alors lui rendre justice ? Sans aucun doute. D'une part, on ne verra pas de sitôt un pape doté d'une telle capacité à transmettre l'enseignement de l'Église. D'autre part, l'Église en Occident va continuer à se réduire, ce qui va probablement conduire à la constitution de petites communautés de chrétiens convaincus. C'était sa prophétie. Je pense que pour ces communautés, l'œuvre de Ratzinger sera un trésor précieux pour pouvoir reprendre vie sans peur avec la joie de la foi. Benoît XVI, une vie, tome 1, de Peter Siewald, paru aux éditions Cora. Nous passons maintenant à la conclusion de cette revue de presse. Je vous redonne les titres de cette revue de presse du 21 juin 2022. Je vous ai d'abord donné les conseils de la psychologue et psychanalyste Diane Drory sur le manque qui est vital chez les enfants. Il faut que les enfants apprennent le plus tôt possible à manquer. Je vous ai ensuite lu l'article de Jacques Arennes, donc en ligne sur le site de l'Invisible, sur les pères, donc qui cherchent encore des repères pour pouvoir prendre leur juste place. Je vous ai ensuite parlé de la mort d'Alban Gervaise. L'article est en ligne sur revuemission.fr. En culture chrétienne, je vous ai présenté très rapidement « Chérie, on est en crise », livret du père Michel Martin Prével, paru aux éditions des Béatitudes. Et enfin, quelques extraits de l'interview de Peter Siewald sur Benoît XVI, une vie, donc première partie d'une biographie consacrée au pape émérite, paru aux éditions Cora.
Chers auditeurs, c'était notre émission La Revue de Presse avec Claire. Vous pouvez réécouter cette émission en podcast sur notre site internet radiomaria.fr.